Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernand.
Bienvenue place du marché un petit peu différent d'habitude puisque vous l'entendez, nous sommes sur les souks en guise de marché aujourd'hui, le souk d'Agadir pour une manifestation qui se déroule aujourd'hui. Le premier chapitre des disciples d'Escoffier, l'amicale des disciples d'Escoffier, c'est-à-dire que de nombreux chefs français viennent transmettre leur savoir-faire, leur cuisine à leurs collègues marocains.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Fernio.
Alors j'ai justement à côté de moi Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier. On l'appelle Auguste, hein, au disciple d'Escoffier, le grand Auguste. Alors rappelez-nous en premier lieu, Michel, qui était votre arrière-grand-père et quelle est la trace qu'il a laissée dans l'histoire de la grande cuisine française ?
Eh bien, donc Auguste, effectivement, je le dis souvent, a fait passer la cuisine du Moyen-Âge au temps moderne. Et surtout, il a laissé à la postérité le fameux guide culinaire qui a été publié pour la première fois en 1903, suivi d'ailleurs d'un livre des menus tout aussi intéressant, en particulier dans les introductions où il nous dit que la cuisine, comme la mode, doit évoluer avec son temps. Et nous devons comprendre l'évolution dans le mode de vie des gens qui va en s'accélérant. Il a écrit ça, il n'y avait pratiquement pas de voiture sur les routes. Donc il a laissé à la postérité ce guide culinaire, mais également, et c'est peut-être la partie la plus importante pour la profession, c'est des standards de comportement d'une part et surtout d'organisation en cuisine, comme les fameuses brigades qui permettent...
Il a un peu créé le métier de chef.
Pour ainsi dire, oui, c'est-à-dire que, en fait, comme il a été très rapidement, surtout quand il a rejoint son ami et collègue César Ritz, il avait régler donc des cuisines importantes. Et pour servir les clients rapidement et chaud, il a imaginé ce système de brigade et de chef de partie.
Un
peu comme une armée.
Avec une hiérarchie, une organisation qui s'apparente à l'armée.
Et il s'est peut-être inspiré du fait qu'il a participé activement à la guerre franco-prussienne de 1870 en étant le chef de l'état-major de l'armée du Rhin.
Alors Michel Escoffier, en citant votre arrière-grand-père Auguste Escoffier, vous avez adjoint, c'est normal, César Ritz, un très grand hôtelier, parce que c'est ce couple en fait qui est à l'origine vraiment de cette révolution de l'hôtellerie et de la restauration en hôtellerie et même dans la restauration indépendante. Et alors ça tombe bien parce que j'ai à côté de moi la Seine Affide, et la Seine, d'abord il travaille au Ritz, hein, il est le second des cuisines, le second de Nicolas Salles et le grand organisateur des cuisines du Ritz. C'est à cause de ça, la Seine, que vous êtes tombé dans l'Escoffier, à cause du Ritz ?
Oui, à cause du Ritz, tout à fait. Et la première des choses, je sais, c'est mon chef Nicolas Salles, et le président international des disciples d'Escoffier. Donc on a l'impression, il y a un arbre.
Oui, c'est ça.
Il y a un arbre, en fait, et qui va jusqu'en Afrique, jusqu'au Maroc.
Oui, parce que... Aujourd'hui, c'est à votre initiative que s'ouvre cette première antenne marocaine des disciples d'Escoffier et que s'ouvre ce premier chapitre. Alors, ça a l'air de rien, mais je pense que pour les Marocains que j'ai vus, les chefs marocains qui sont venus se faire introniser, c'est un très, très beau jour.
Exactement, c'est un très, très beau jour parce que le chapitre... se passe dans une atmosphère vraiment, c'est un rituel pour moi, il faut le faire bien. Et introniser un chef, c'est une cérémonie.
Oui.
C'est une cérémonie qui...
Oui, parce qu'il y a un lustre, il y a une importance.
Exactement.
À cette cérémonie.
Et parrainer quelqu'un et l'introniser, ça veut dire que nous sommes des garants de ces chefs qui vont incarner les valeurs de la transmission, du partage. Et en plus, c'est des chefs marocains qui vont mettre en avant et en honneur et en valeur la gastronomie marocaine à travers la mémoire d'Auguste Escoffier.
Oui.
C'est ce qui est important pour moi.
Alors, si je peux schématiser un petit peu,
oui,
on va dire d'abord que la cuisine marocaine, c'est certainement et de loin la plus aboutie et la plus belle cuisine maghrébine.
Exactement,
hein,
ouais.
Hein, parce qu'elle a, elle a une richesse
une
de
histoire.
Produits et une histoire notamment royale, qui fait qu'elle a été poussée dans ses, on va dire, dans ses moindres tranchements et dans son étude. Mais elle s'est transmise par les mamans. Hein, jusqu'à notre génération.
C'est une cuisine de maison, on va dire.
Voilà, c'est une cuisine de maison.
Ouais.
Et en mélangeant escoffier avec les cuisines marocaines, ça devient une cuisine de chef aussi, de chef marocain.
Oui, tout à fait. Ça devient une cuisine de chef marocain où le chef marocain va en profiter, va prendre plaisir de cette cuisine traditionnelle qui a une histoire, qui a un terroir, et lui mettre de la lumière, que tout le monde dit je veux manger dans telle table marocaine, la grande table marocaine, et voilà. Donc c'est très très important qu'aujourd'hui cette association et ces actions qu'on fait, c'est pour aussi dire qu'il y a un art de la table marocaine qui existe et qu'on va le mettre en avant, en valeur, avec des chefs qui ont envie de travailler, parce que sans travail il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça aujourd'hui nous sommes là, Agadir, c'est ma ville natale, et je voulais que l'événement se passe aussi ma ville natale pour tirer du bas vers le haut.
Oui, parce qu'on va en reparler évidemment au cours de l'émission. Il y a tout un aspect social aussi qui est de faire accéder une jeunesse pas toujours favorisée aux cuisines
tout
et aux plus belles cuisines du pays.
Bon.
Oui. Michel Escoffier, vous qui êtes président donc, des Disciples, vous voyagez dans le monde entier, vous avez des antennes un peu partout. Quel est le lien commun, quel est le tronc commun entre toutes ces cuisines si différentes les unes des autres à travers les pays qui se reconnaissent en Escoffier?
Alors, je suis surtout le président de la Fondation Auguste Escoffier, qui porte donc son nom, et du Musée de l'Art Culinaire, qui est dans la maison natale où il est né,
à Villeneuve-Loubet, en Provence, quoi, enfin sur la Côte d'Azur.
À côté de Nice. Et c'est là qu'a commencé à Nice la création, en 1954, des Disciples d'Escoffier, qui s'est ensuite étendue au monde entier, puisqu'on a fini par introniser plus de 35 000 membres à travers les 5 continents. Et certainement, ce qui crée le lien, c'est d'une part le fait que dans la profession, et je pense que c'est la même chose dans d'autres professions manuelles en particulier, il y a d'abord une grande camaraderie, parce que chacun sait les efforts qu'il faut faire pour réussir, une grande solidarité et en même temps un grand respect. Je vois, et ça c'est mon grand plaisir, voir quand les chefs se rencontrent, même s'il peut y avoir parfois de la concurrence quand on est on a un grand restaurant dans la même ville, on veut naturellement attirer le plus grand nombre de clients, mais malgré tout, il y a toujours ce côté respect de l'autre et même amitié. Et ça, c'est important.
Et puis évidemment, l'amour du travail et du travail bien fait, hein, parce que ce sont les préceptes de votre arrière-grand-père.
Alors aussi, je rajoute, puisque Arsène l'a mentionné, c'est que la cuisine, la gastronomie ne vient pas d'une autre planète, elle vient du terroir. Et c'est en fait les recettes du terroir qui sont ensuite affinées, travaillées, transformées parfois légèrement, parce qu'avec les voyages, les contacts, on découvre des herbes nouvelles, des saveurs nouvelles. Donc on fait ce qu'on a appelé à un moment donné la cuisine fusion. Mais je dis souvent aux élèves, ne vous faites pas tromper par ce mot, parce que la cuisine fusion, comme dirait Auguste, oui, mais confusion, non.
La Sanafide, ici c'est vraiment, on est sur un très beau domaine, ici à Agadir. J'ai envie de vous demander, pour ceux qui nous écoutent, les grands plats de la cuisine marocaine, comme on pourrait parler des grands plats de la cuisine française, c'est quoi? Quelques plats comme ça pour éclairer notre mémoire.
Les grands plats de la cuisine marocaine, c'est par exemple la tangia. La tangia, c'est un plat tangéroise qui vient de... c'est un plat d'homme de base. C'est un plat d'homme, c'est où les hommes puissent préparer leur viande, la mariner et la mettre dans une jarre et la mettre un petit peu dans la terre avec de la braise, la couvrir, partir travailler toute la journée, revenir, leur plat
un
est
étouffé
prêt.
Quoi,
c'est un étouffé, exactement. On va partir sur un étouffé. Donc voilà, après on passe sur un plat comme la morozia. La morozia, c'est un plat aussi de plusieurs siècles, plusieurs siècles. Et c'est un plat de long date de la cuisine marocaine. On va en parler un morceau, moi, ça me... C'est des plats qui prennent beaucoup de temps à cuire. On va aller un petit peu, on va aller un petit peu par, comme un, on va dire un bourguignon.
D'accord.
Voilà, un bourguignon. Après, bien sûr, il y a le couscous. Le couscous qui est un petit peu qui est préparé
on selon, le fait au beurre,
selon
ici
chaque région. Alors, et différents types de couscous. Alors, le beurre, je pense que oui, il y a du couscous où ils mettent du beurre. Mais
ça a été un apport des Français quand même. Hein.
Exactement.
Ouais, tout non, à mais fait. C'est vrai, c'est vrai, avec le protectorat.
Exactement. Et après, ouais, derrière, il y a de l'huile d'olive aussi qui est beaucoup utilisée au Maroc parce que c'est des régions où il y a autant d'olivier. Et voilà. Je pense que la cuisine marocaine et la cuisine française, il y a beaucoup de liens. Et je peux même vous dire quelque chose par rapport à la cuisine marocaine, c'est qu'en France, le deuxième plat préféré chez les Français, c'est lequel?
Bah, le couscous, j'imagine. Voilà. Ah, le donc couscous, voilà, des mamans marocaines.
Exactement.
Allez, restez avec nous, messieurs. On va passer une petite page de pub. On se retrouve tout de suite à Agadir.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernand.
Nous voilà de retour au domaine Villa Tlemoun, à quelques encablures d'Agadir, pour ce chapitre des escoffiers Maroc, des escoffiers, association de cuisiniers à travers le monde qui se réclament de la mémoire et des pratiques d'Auguste Escoffier et son fameux guide culinaire. J'ai d'ailleurs à côté de moi Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste. Et la Sénafide qui a été à l'origine, à l'initiative de cette création du chapitre marocain des Escoffiers. Il faut dire qu'il est le second de Nicolas Salle au Ritz. Et le Ritz, bah, c'est la maison d'Escoffier, hein. On peut dire ça, hein, la
Sène. Oui,
Seine,
tout à fait, oui, exactement. C'est
d'ailleurs
la maison d'Escoffier.
C'est encore que... présent au Ritz, à l'hôtel Ritz à Paris, la mémoire d'Escoffier, oui, est encore forte.
Tout à fait, parce que nous avons une formation dans les écoles Escoffier qui est le modèle, on travaille sur le modèle et le programme Escoffier. Et c'est l'école Escoffier. Nous avons quelques plats, quelques recettes classiques de Auguste Escoffier. On en a comme. Après aussi, nous avons aussi plusieurs endroits. On a ces photos. Comme en cuisine, quand on arrive à l'entrée de la cuisine, on a la photo de Monsieur Escoffier. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment. Honneur et plaisir d'avoir que M. Escoffier est passé par ses cuisines.
La Seine, qu'est-ce qui s'est passé pour un enfant natif d'Agadir qui n'avait comme contact avec la cuisine que sa maman, j'imagine, hein, comme beaucoup de jeunes Marocains, pour être aujourd'hui le second de Nicolas Salle à l'hôtel Ritz, un poste très envié?
Alors, c'est une petite histoire, cher Vincent. C'est une petite histoire, cher Vincent. Cette histoire, en fait, ça a commencé à Agadir. Moi, quand j'étais tout gamin, ma maman, quand elle va au souk, je vais avec elle. Je me lève le matin tôt, je vais aller avec elle parce qu'en fait, j'adore être au contact avec les produits. En fait, quand je vais aller avec elle dans les souks, tu sais bien comment, quand il y a des tables avec des légumes et les fans de carottes, les fans de navets, moi, j'avais la tête juste en face. Et je l'ai chopé comme ça.
Ah ouais.
Et je l'ai senti. Donc j'ai en contact avec de la terre. Et à cette époque-là,
ça, c'est le produit déjà.
Exactement. Et à cette époque-là, le souk, c'est de la terre. On passe pas par des machines, des lavages, des sachets, des. Et donc et voilà. Ça c'est. Et quand je rentre avec elle à la maison, donc elle va commencer à préparer un couscous ou un tagine. Donc je m'assois avec elle et je lui dis ce que je peux t'aider. Elle me dit tiens, épluche les carottes. Et là finalement, ça a provoqué quelque chose. Et depuis ce temps-là, même quand je vais en colonie de vacances avec des amis, quand j'étais au collège ou au lycée, je ne les laisse pas acheter à manger à l'extérieur. C'est moi qui fais à manger pendant cette époque. Et finalement, après, par la suite, je voulais travailler dans la cuisine. Donc, j'ai passé mon entretien à l'école, à l'ISTA d'Agadir. Et j'étais pris. Un jour, je leur ai dit, un jour, je vais je vais être comme les grands chefs, je vais être là-haut avec... Il y a une étoile qui brille, je vais être au Ritz peut-être un jour. On m'a pris pour un fou.
Un fou, quoi, voilà. Oui. Bah oui.
Et
c'est
voilà.
Ça, mon garçon, calme-toi, fais ton boulot.
Et voilà, donc aujourd'hui, je suis au Ritz, je suis heureux d'être au Ritz, je suis très très content. Mais je n'oublie pas mes racines d'où je viens. C'est très important de rester... Et là, je me suis dit, on n'est que des cuisiniers, on ne sauve pas des vies, donc c'est important de rester humble. Et au lieu de continuer ma carrière en France et de développer mon réseau, donc je me suis dit, il va falloir faire quelque chose aussi pour,
ouais, bah oui.
Pour le Maroc, pour nos jeunes marocains, parce que j'ai été dans ce... J'ai vécu ça quand j'étais jeune dans une école hôtelière d'Agadir et que des fois, il n'y avait pas beaucoup de chefs qui tirent du bas vers le haut. Et moi aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est pour tirer les jeunes du bas vers le haut avec une équipe qui est très très solide.
Très solide, on le voit parce que vous êtes très soutenu ici. Michel Escoffier, quelles sont les valeurs en un mot que les disciples entendent transmettre à tous ces chefs marocains? Quels sont les points importants, les points clés?
Tout d'abord, le fait que... Il n'y a pas de différence de hiérarchie, donc tout le monde est à égalité. Ensuite, naturellement, l'important, c'est de transmettre. Auguste lui-même, dans ses souvenirs, rappelle qu'avec une certaine fierté tout à fait légitime, qu'il a lui-même formé plus de 2000 chefs qui, à leur tour, sont allés de par le monde faire connaître...
Prêcher la belle cuisine.
La gastronomie française et les produits français, ne l'oublions pas, parce qu'il était quand même aussi... très français pour cela, malgré le fait qu'il a passé les 30 dernières années de sa vie professionnelle à Londres. Et je rappellerai aussi que, bien qu'ayant été, on l'a surnommé d'ailleurs, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois, et il servait les riches et les puissants, et en même temps, toute sa vie, il a eu le souci de la pauvreté et de la faim dans le monde, au point qu'il a même écrit un opuscule sur l'extinction du paupérisme que la Fondation Escoffier a l'intention de remettre en valeur aujourd'hui pour faire connaître cet aspect humaniste du personnage qui est un peu moins connu.
La scène, hier, j'ai rencontré Moa, qui est un des chefs iconiques ici au Maroc,
exactement.
Parce qu'il travaille à la télé.
Oui.
Il fait le master chef marocain.
Oui, tout à fait.
Qui est, m'a-t-on dit, un des programmes les plus suivis à la télé marocaine.
Oui, tout à fait. Oui.
Preuve que la cuisine marocaine, elle est à la mode ici. Il n'y a pas qu'en France, hein, oui. Elle est à la mode aussi au Maroc.
Exactement. Elle est dans le temps. La cuisine marocaine aujourd'hui.
Elle attire les jeunes.
Elle attire les jeunes. Elle attire beaucoup de jeunes. Elle est dans le temps, c'est pour ça qu'on voit autant de personnes qui suivent cette émission. Et que c'est une émission qui est comme aussi qui se passe dans la rigueur, la discipline et en même temps dans une bonne ambiance. Mm-hmm. Et chef Moa, c'est pour moi, c'est un chef qui est futur disciple, qui fait partie maintenant des disciples Escoffier Pays Maroc. Et pour nous, c'est un exemple et c'est une bonne image pour dire que même autant que jury, autant que... il peut être aussi chef, jury ou humoriste ou quoi que ce soit. Les disciples Escoffier, tous les chefs, tous les quatre codes couleurs des disciples, ils ont les bienvenus. Et Chef Moa, pour moi, c'est une belle image.
Il est ici, Moa, aujourd'hui?
Oui, et alors je pense qu'il est en chemin. Il arrive, il a pris
arriver,
un petit peu de retard.
Parce qu'on lui demandera de venir nous faire un
exactement
petit coucou tout
avec
à l'heure. Cela dit, beaucoup d'enfants toujours autour des disciples Escoffier, parce qu'ici au Maroc, l'enfant est toujours présent. Il y a toujours ce souci pour ceux qui ont réussi, entre guillemets,
oui.
Comme vous par exemple,
tout à fait.
De transmettre,
très bonne question.
De donner des chances oui. Aux enfants.
Ça, c'est une très bonne question qui me touche. Franchement, ça, c'est un point qui me touche énormément parce que moi, quand j'étais gamin et que j'avais... j'ai pas vécu la rupture, heureusement, parce que j'avais mes parents qui m'encouragent, j'avais
oui,
un grand frère qui m'encouragent. Aujourd'hui, des fois, de temps en temps, on voit les ruptures. Et moi, ça me fait très, très mal au cœur d'avoir une rupture. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour casser cette rupture. Et pour
et
dire, il
n'y
a pas de rupture.
Social.
Et créer de liens sociaux. Et qu'un jeune, aujourd'hui, qu'on le pose la question, pourquoi tu fais de la cuisine comme ça? Non. C'est nous, notre rôle, c'est de lui incarner les valeurs de cette cuisine. Et que la cuisine devient une passion, un amour. Et après, ça devient avec des convictions. Et c'est très, très important qu'on lui transmette ça. Parce que si on ne lui explique pas pourquoi, comment, il va dire, je suis un cuisinier, ok. Non, moi, quand on m'a posé la question quand j'étais gamin, tu veux être quoi? Je me souviens. Nicolas Salles, il m'a dit, tu veux être quoi la Saint, je vais être un grand cuisinier. Un grand chef, pardon. On me dit, ah bah dis donc. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais être un chef.
Ouais.
Moi, je dis, je vais être un grand chef. C'est très important pour moi. C'est pour ça qu'on est là pour aussi faire des actions dans des écoles et montrer de la rigueur, la discipline à ces jeunes et que ça leur donne envie de nous rejoindre et de suivre nos actions, notre programme, qui est quand même un programme riche parce que j'ai oublié de te parler d'un truc, c'est que les disciplines Escoffier, il y a le concours de gens talents Escoffier qui est très important, qui donne envie à tous les jeunes de participer et ça leur donne envie aussi d'apprendre, de grandir et de travailler.
La Seine, puisqu'on parle des enfants ici au Maroc, on ne peut pas faire autrement que de parler des jeunes en France également, puisque vous vivez en France, hein,
oui,
vous êtes parisien.
Depuis 22 ans.
Et il y a beaucoup évidemment de jeunes issus de l'immigration, et notamment nord-africaine, dans notre Île-de-France, oui. Et en France, qui sont un peu dans cette rupture sociale et dans cette difficulté de trouver une voie. Vous avez envie de faire la même chose en France, de montrer à des jeunes que c'est possible de se grandir par la cuisine.
Tout à fait. Tout à fait. Je le fais de temps en temps avec des jeunes qui sont de l'Île-de-France, de la banlieue parisienne, parce qu'aujourd'hui, moi, je lui dis, toi, tu es de la banlieue parisienne, moi, je suis d'un village d'Agadir. Et quand je lui dis le village d'Agadir qui s'appelle Talgjon, tu penses que c'est dans une autre plaine. Je lui dis, donc, en fait, la distance est très loin. Et j'ai réussi aujourd'hui. Je dis, Le travail, la rigueur, la discipline, tu réussiras. Et après, à partir du moment où ils voient qu'un jeune d'Agadir qui vient d'un petit patelin et qui a réussi, bah, un jeune d'un bon lieu, je pense que c'est plus facile pour lui qu'un jeune d'Agadir.
Tu es d'accord avec moi ? Il a plus d'accès.
Il est déjà dans le rythme. Il est déjà dans cette culture française. Alors que moi, je viens d'une culture marocaine et que pour intégrer la vie française, le social français, et s'adapter aux deux. Et les deux, je réussis à l'adapter. Et c'est quelque chose que quand je leur donne cet exemple, ils disent, ah oui, d'accord, ok. Bah, là, ça crée quelque chose. Et quand ça crée quelque chose, c'est qu'il est prêt à donner le maximum de lui. Et qu'il me dit, bah, t'es mon parrain, Lassane. Je dis, avec grand plaisir, je serai ton parrain et je t'accompagne. Et j'ai des exemples au Ritz aussi, pareil.
Lassane Hafid, je vois arriver des Escoffiers, plusieurs chefs, parce qu'il y en a des chefs français ici. Je vois Alain Dutournier du Carré des Feuillants. Je vois Éric Briffard, le chef du Cordon Bleu, hein, que vous connaissez bien aussi. On va leur poser quelques questions. Restez avec nous, on se retrouve dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, Vincent Fernand.
De retour pour ce Place du Marché spécial Maroc, à quelques kilomètres d'Agadir, dans un magnifique domaine où nous fêtons aujourd'hui les Escoffiers, comme vous le savez, hein, si vous avez écouté le début de l'émission. Et là, ce sont des chefs qui m'ont rejoint, puisque je suis entouré de Myriam Cherkaoui, qui est bien connue ici et chez nous en France aussi, hein, une ambassadrice depuis longtemps de la cuisine marocaine en Europe. J'ai aussi Alain Dutournier avec moi, le chef du Carré des Feuillants, et Éric Briffard, le chef du Cordon Bleu. Alors, tous ces braves gens sont évidemment des disciples d'Escoffier. Il y en a une quand même qui est une disciple d'Escoffier de fraîche date. C'est aujourd'hui, hein, votre intronisation, Myriam.
Oui, c'est aujourd'hui que je suis intronisée dans les disciples d'Escoffier. Mais j'ai toujours entendu parler de cette association et parler aussi d'Auguste Escoffier, parce que j'ai appris avec Paul Bocuse et j'avais tous ces guides-là, le Grégoire, toutes les choses, c'était la Bible. Je suis de formation française, je suis arrivée il y a 20 ans au Maroc et on m'a dit tout de suite, c'est le Maroc, tout de suite mes origines, ils ont pris le dessus.
Ça vous fait plaisir d'être disciple d'Escoffier et surtout dans un chapitre marocain ?
Ah oui, parce que pour nous, dans la cuisine marocaine, elle n'est pas codifiée, elle n'est pas écrite. Automatiquement, Escoffier qui a écrit la cuisine, qui a mis les bases de la cuisine française, pour nous, on veut faire cette similitude avec la cuisine marocaine.
Et la cuisine marocaine, c'est une cuisine de femmes, et donc c'est bien quand même qu'il y ait des femmes qui rentrent aux Escoffiers, et surtout au Maroc.
C'est une cuisine de transmission, mère-fille. Automatiquement, on ne connaît pas dans telle région, chez les paysans, chez les marins, on ne connaît que dans les grandes villes un peu la cuisine. Mais ces gens-là, ils ont une cuisine qu'aujourd'hui doit être répertoriée, doit être écrite.
Je suis sûr que vous faites plaisir à Alain Dutournier qui vous écoute, parce que le Gascon, il est très influencé par la cuisine de sa mère, de sa grand-mère. Ça, c'est aussi une affaire de transmission en Gascogne.
Oui, disons que la cuisine, c'est un métier de femme au départ. C'est même pas un métier, c'est un sacerdoce. Et nous, les cuisiniers, ben, on a essayé d'honorer ce que les femmes faisaient. Et je suis très touché quand je vois des femmes en cuisine. Nous, on en a plein qui travaillent avec nous. Mais en plus, ce qui m'a énormément plu ici aujourd'hui, c'est qu'on a vu des gens attachés, notamment une dame qui s'attache à retrouver des produits dans la montagne, des produits rarissimes qui sont les fondamentaux de cette cuisine. Et c'est la même chose en France, dans toutes nos régions. Bon, Vincent, il le sait, il écume là-dessus parce que c'est formidable de refaire vivre des produits qui allaient être oubliés. Et je crois que vous, votre mission, c'est de régénérer tout ça pour que les Marocains prennent conscience des trésors sur lesquels ils sont assis.
Éric Briffard, vous qui nous écoutez d'une oreille attentive, je vous ai vu fureter dans les allées ici au domaine, puisque nous sont présentés beaucoup de produits, beaucoup de plats, beaucoup de traditions marocaines. Je vous ai senti vraiment bluffé, quoi.
Tout à fait, c'est bluffant. C'est surtout que je suis en émerveillement devant les beaux produits de la nature. C'est incroyable de voir la qualité de ces produits, des produits qui sont vraiment ancestraux et qui restent vraiment la signature d'un patrimoine. Et c'est fabuleux aujourd'hui où on est dans la world cuisine, etc. Il faut vraiment qu'on défende tous nos origines et nos patrimoines. Il faut que cette transmission, nous sommes des passeurs. Toutes ces femmes ici marocaines qui ont des savoir-faire, comme vous le disiez si bien, la codification qui est fabuleuse. Et quand je vois toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui viennent à la cuisine et qui le font avec une passion, qui donnent, on goûte des produits fabuleux. L'origine des produits est exceptionnelle.
Alors vous nous donnez envie, puis en même temps vous nous dites pas tout, Éric Briffard. Il faut dire que vous êtes à la fois escoffier, disciple d'escoffier, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous êtes le chef du Cordon Bleu, qui est une école de formation à la cuisine quand même française. Alors j'ai envie de dire, vous êtes un peu le tenant de la tradition, d'une certaine tradition, et pourtant vous êtes bluffé par la cuisine marocaine ?
La cuisine marocaine, à l'Institut Cordon Bleu à Paris, on l'enseigne également, parce que même dans notre cursus de Cordon Bleu, il y a vraiment la cuisine marocaine. Et pourquoi ? C'est pas gratuitement, c'est parce qu'il y a une cuisine réelle, ancestrale, la pastilla de pigeon, les tagines, tout ça, c'est vraiment des recettes qu'on emploie régulièrement et qui sont dans le cursus de l'Institut Cordon Bleu. Et je peux vous assurer qu'on s'assure à ce qu'elles soient respectées aussi bien pour leur équilibre que le dosage des épices, parce que la tradition. Et on enseigne ça aujourd'hui à Paris à 66 nationalités différentes.
Alors, je vous sens tellement fervent, j'ai envie de vous demander, Éric Briffard, dites-moi ce que vous avez goûté là, en vous baladant, des choses qui vous ont vraiment, vraiment interpellé, vraiment saisi, même étonné.
Moi qui est passionné, vous savez déjà, avec Alain, on fait partie du Collège culinaire de France, hein, au soutien des petits producteurs déjà en France, qui doit être un socle et qu'il faut se battre. Et là, je vois qu'on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Quand je vois une femme qui est ingénieure au pont et chaussée, et finalement qui a fait l'Atlas, qui a fait toutes les montagnes, et qui vient et qui a vu tellement de beaux produits, et qui s'affaire à vouloir mettre ses produits en exergue avec des qualités et tout, mais... Et avec un design moderne, de savoir s'adapter avec des préparations qu'on peut manger. On a goûté des confitures, on a goûté des cerneaux de noix, on a goûté tous des mix, on a goûté des olives fabuleuses. Il y a des produits...
Et quand on dit des olives, il y en a au moins 10 sortes, hein, 15 sortes.
Avec des couleurs, avec des tonalités, etc. Vous savez, les chefs, quand on voit le produit, on est des enfants. Ça y est, on redémarre. Pour moi, là, je suis au paradis. Hein.
Vous, Alain Dutournier, qu'est-ce qui vous a bluffé dans ce que vous avez goûté ? Parce que je vous ai vu devant les légumes tout à l'heure.
Oui, mais j'ai retrouvé des fraîcheurs, des choses très naturelles, donc des feuilles de capucine, du salicorne élégant, croquant et pas fibreux. Plein de choses, la nature est respectée et je pense qu'on a la chance d'avoir, au travers de la cuisine marocaine, au travers d'autres cuisines et la cuisine française, on a la chance d'avoir tellement de nuances qu'il faut cultiver ces différences et il ne faut pas uniformiser la nourriture parce que l'être humain va s'ennuyer, ça va être très triste. Il faut continuer à protéger, garder ses sources et les valoriser.
Myriam Chakaoui, on le voit bien ici au Maroc, et la vie n'a pas été facile depuis très longtemps, donc c'est une cuisine de produits avant tout végétal, hein, la viande c'était vraiment pour les jours de fête ou pour la table du roi, et donc c'est une cuisine très inventive sur le plan du végétal.
Oui, moi, ce qui m'a toujours, en fait, il y a 20 ans, quand je suis arrivée, ce qui m'a touchée le plus, c'était... Je suis née dans une ferme, d'abord. Et puis, c'est tout de suite, les origines, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la cuisine. Et le végétal, c'est ce que j'ai mis toujours dans ma cuisine en priorité. En priorité, parce qu'ici, ils ne s'intéressaient pas au début, il y a 20 ans. Tous les chefs voulaient que des produits qui arrivent d'ailleurs. Et moi, je leur disais, mais on a des merveilles autour. Et pourquoi personne, aujourd'hui, ne s'intéresse au citron confit, à cette huile d'argan, à plein de produits, à cette amande du Sud? Et en fait, il fallait les chercher, chercher, chercher et améliorer, travailler avec les producteurs. C'est ça le travail qui a été fait, travailler avec eux au quotidien pour améliorer, faire des cahiers de chèvres, faire des choses. Mais tout, ils avaient tout entre les mains, mais ils ne savaient pas s'il y avait un intérêt à les travailler. C'est ça en fait. Et moi, je suis arrivée en leur disant non, il n'y a que ça, on va se concentrer sur ça, on va travailler, on va faire des produits d'exception. Et les Marocains eux-mêmes, quand ils mangeaient, ils étaient étonnés que ces produits arrivent de chez eux, et surtout des ingrédients qui n'étaient plus travaillés du tout au Maroc, comme là, ils sont en train de faire du berkoukesh, qui est la grosse graine de semoule, qui vont nous la faire avec amlou, qui est dans le sud, très connu, ils le mangent même comme un dessert. Cette graine de semoule, elle est mangée comme un dessert. Et tout ça est revenu au goût du jour. Et les gens aujourd'hui, quand ils l'entendent, ça leur parle. Ça dit « Ah, ma grand-mère me faisait ça ». Et aujourd'hui, il y a toute une... c'est-à-dire, il y a une vraie histoire. Il y a quelque chose qui revient aux origines. Et même ces régions-là, qui sont peut-être moins mises en avant au Maroc, ben aussi, ils se rendent compte que leur produit, il est là, il joue un rôle et que leur argan, il est exceptionnel.
Myriam Cherkaoui, vous n'avez pas peur, en prenant le cordon rouge, en devenant disciple d'Escoffier, d'être formaté par la cuisine traditionnelle et classique française? Vous allez pouvoir garder vos origines, vos envies, vos particularismes?
Mon cœur, il a toujours balancé entre les deux. Je suis de formation française et je connais la cuisine française, mais mes origines, c'est vrai que ça a été rapide, quoi. Il y a 20 ans, je dis, mais pourquoi personne n'a refait de la cuisine marocaine contemporaine, actuelle? Et c'est ça ce que je leur disais. Mais on n'est pas... Au début, j'étais contrée, hein. J'étais dans la voiture, des fois, j'entendais, ils discutaient sur moi. Je dis, je veux rien changer, au contraire, je veux m'imprégner de ça, mais la rendre plus actuelle. Et c'est ça. Au début, personne ne s'intéressait à cette cuisine. Et aujourd'hui, on voit les jeunes qui cherchent et vont chercher, parce qu'il faut une vraie histoire marocaine, et après, lui intégrer de la technicité. Parce que des fois, dans nos recettes, on manque de technicité. On n'est pas comme la cuisine française, on manque de technicité, de cuisson, des choses...
De précision.
On va dénaturer un produit alors qu'il faut le laisser au plus naturel. Et ça, on le remarque parce que c'est peut-être une cuisine de restaurant ici, parce que la restauration n'est pas vieille. Mais la cuisine qu'il y avait dans les familles et qu'on a toujours mangé, c'est une cuisine où il n'y a pas beaucoup d'épices déjà. Parce qu'on n'est pas un pays d'épices, on est un pays de condiments. On met des capres, on met des citrons confits, on met des aromates et on ne met pas beaucoup d'épices. Les deux seules épices qu'on connaît bien et qu'on produit bien au Maroc, c'est le cumin et le safran. Ça, c'est les deux épices phares. Un peu de piment, ou de piment fort aussi, mais ça s'arrête là. Mais on ne mange pas piquant comme en Tunisie. C'est ça, c'est vraiment des condiments qui vont assaisonner et relever. Parce qu'ici, on ne déglace pas. On met du citron confit à la fin pour donner de l'acidité. On rajoute de la tomate.
On apporte de la fraîcheur, quoi. Fraîcheur. En fin de recette. Éric Briffard, à entendre Myriam Cherkaoui, on sent quand même cette connivence, cette proximité entre cette cuisine. Alors, je vais l'étendre au Maghreb, en général, et la cuisine française. Et il est évident que c'est lié à l'histoire. Hein, et peut-être le plus beau de ce qui reste de cette époque coloniale et de protectorat, c'est certainement les influences marocaines, tunisiennes, algériennes que l'on retrouve dans la cuisine française. Vous le sentez, vous qui êtes un grand technicien, qui connaissez beaucoup de choses, est-ce que vous sentez ces influences maghrébines dans notre cuisine?
Oui, bien sûr. La France, on recherche tout aussi. Vous savez, la cuisine française en soi, elle s'est nourrie en permanence aussi de la cuisine de nos voisins.
L'influence.
Hein. Sans l'Italie, la cuisine française aurait très peu évolué. Et finalement, la France a toujours su continuer à essayer d'aller voir à côté pour voir ce qui se passe. Et effectivement, on a un héritage aujourd'hui. Et vous savez, on dit souvent maintenant qu'en France, c'est le couscous sûrement qui est peut-être le plat qui va passer devant la blanquette. Mais parce que aussi, c'est des plats tellement généreux, des plats de partage où on a tout dedans, et c'est des cuisines aussi de chaleur, de savoureuse, de couleur, et c'est tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur ce marché des petits producteurs, et vraiment c'est exceptionnel.
Alain Dutournier, encore un mot, parce que vous êtes d'une région, la Chalosse, on va dire le sud des Landes, qui est extrêmement carnée. hein, sur le plan du régime alimentaire, terre de chasseurs, terre d'éleveurs, que ce soit le canard ou le bœuf. Et est-ce que, on sait bien qu'à notre époque, il faut manger moins de viande, mais mieux. Est-ce que ça passe par des cuisines comme la cuisine marocaine, avec cette diversité aromatique que l'on retrouve justement dans le traitement du végétal ?
Je pense que la cuisine marocaine, pour moi, est très symbolique parce que nous avons été envahis par les Maures et on retrouve plein de gestes chez nous, mais après, et des épices notamment, et des tas de façons de manger. Mais par contre, ne serait-ce que ce qu'on appelle le pastis chez nous, la tourtière, qui est le même principe que la pastilla. Et donc, pour moi, ça ne me choque pas. Mais moi, je suis pour un savant métissage au fil des générations. On a des influences. Profitons de tout ce qui est bien pour améliorer ce que l'on a. Mais il ne faut pas que ce soit systématique et bébête. Il ne faut pas mélanger tout avec n'importe quoi. Je pense que la cuisine marocaine a une identité merveilleuse. Elle fait partie des grandes cuisines du monde. Bon, il faut que chacun garde un peu ses moutons. Et
Donc au fond, si je résume, vous êtes pour l'intégration plus que pour l'assimilation.
Voilà, il ne faut pas que ce soit du systématique. Il faut que ça vienne par rapport à une histoire. Toutes les grandes recettes sont fondées sur des rencontres, sur des échanges, sur des traditions, certes, mais il faut garder tout ça, le protéger et pas tomber tout de suite dans le mélange de tout et de rien.
Allez, le temps pour nous d'aller prendre une petite olive, un petit thé à la menthe, une corne de gazelle. On se retrouve tout de suite après la publicité.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernier.
Allez, de retour à Agadir pour ce premier chapitre des disciples d'Escoffier. Et là, on peut dire que les intronisations ont eu lieu. Une bonne trentaine de chefs marocains et de chefs, de femmes aussi, ont été intronisés aux disciples d'Escoffier. Et j'ai avec moi Moaf Edal, qui est chef, propriétaire d'un restaurant à Marrakech. Bonsoir Moaf.
Bonsoir.
Bonsoir. Et j'ai à côté de moi Rachida Gouey, qui est également chef à Marrakech, à la Mamounia, un célèbre hôtel de Marrakech qui fait partie de l'histoire de Marrakech.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, il faut se dire un truc, c'est que, au fond, là, tous ces chefs qui sont là, c'est un peu un saut dans l'inconnu, Moal. Parce que, vraiment, les Escoffiers, vous ne connaissiez pas il y a encore quelques temps, je suppose.
Alors, moi, quand j'ai démarré, bien sûr, j'ai démarré en Suisse, donc mes armes, donc je savais qu'ils étaient Escoffiers, bien sûr. Bon, pour les jeunes, ils ne le savent pas parce que c'est trop vieux. Moi, je suis un vieux déjà, vieux de la vie, du métier, du moins. Mais en tout cas, c'est sûr que disciple des Escoffiers, c'est quand même un honneur que ça se déplace ici à Agadir pour qu'on puisse quand même découvrir des jeunes talents et des vieux de la vie, comme je dis toujours.
Oui,
et
mais
ça, c'est très important.
Mais moi, vous êtes également une star de la télé ici au Maroc, puisque vous animez fréquemment le Masterchef marocain, on va dire, qui est un vrai succès. Vous, Rachid, chef exécutif de la Mamounia, qui est quand même l'hôtel le plus célèbre de Marrakech, qui porte l'histoire, vous n'aviez pas besoin de ça en plus. Est-ce que c'est une médaille supplémentaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ?
Ben, effectivement, c'est une médaille supplémentaire. Comme Mohan a dit, bon, pour notre époque, on a commencé dans les années 80, bon, on a commencé un parcours ensemble. C'est vrai, on était sur des bases discipline Escoffier. Et comme on a dit, bon, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas Escoffier. Notre rôle aujourd'hui, on est intronisé Escoffier. Et notre rôle, c'est de transmettre cette valeur, l'expliquer, la travailler et la transmettre pour les jeunes.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que est-ce qu'il n'y a pas plus français que Auguste Escoffier, hein, dans l'idée. Il n'y a pas plus français que la cuisine qui est promue, qui est prônée par Auguste Escoffier. Et pourtant, là, on est un chapitre marocain. Où est la jonction ?
Alors, j'aimerais juste vous dire une chose. C'est que, bon, Auguste Escoffier, c'est un grand maître de la cuisine au niveau international maintenant.
Oui, c'est un maître des techniques, c'est voilà. Quelqu'un qui a vraiment réussi à mettre dans un livre toutes les bases de la cuisine, qu'elle soit française ou d'ailleurs.
Exactement.
Comment vous la sentez, la jeunesse de la cuisine marocaine, ces jeunes chefs qui sont en train de monter, quel est le sentiment que vous en avez ?
Aujourd'hui, c'est un peu doux, comme vous dites, c'est du partage. On pense aussi à cette génération qu'il faut l'aider et être derrière.
Sans les dégoûter. Hein.
C'est ça, parce que nous, on avait l'envie, on voulait y arriver. Comme on a dit, ça fait pratiquement plus que 30 ans d'expérience. On est aujourd'hui intronisé. Et comme aujourd'hui, bon, il y a des jeunes qui ont 6 ans, 7 ans d'expérience ou 10 ans, on est vraiment content pour eux. Et comme j'ai dit, c'est un honneur et ça nous permet de vraiment y arriver et être en avant. Et c'est vraiment, ça, vraiment un truc qui nous rend vraiment confiants.
Alors, je vous invite à faire un petit voyage avec moi en France, justement. Mmh. Est-ce que vous connaissez l'oreiller de la belle Aurore?
J'ai entendu parler souvent. Et ça me fera plaisir de partir le découvrir.
Et vous,
moi, je connais l'oreiller, je connais Aurore, mais pas les deux.
Ah, les deux ensemble. L'oreiller de la belle Aurore, que l'on doit à Brillat Savarin, un de nos plus grands gastronomes de l'histoire de la cuisine française.
D'accord.
C'est un pâté en croûte dans lequel, traditionnellement, rentrent 16 gibiers différents, 16 viandes différentes. Et on l'a cuisiné pour un repas de chasseur. On y va tout de suite.
Allez, on se réjouit de voir et de goûter.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Alors, il est quasi 20h ici à Beaune. J'arrive sur la place Carnot. Je vois un restaurant illuminé, le Carmin, restaurant étoilé. J'entre et je tombe sur le chef, Christophe Kéan. Christophe, qu'est-ce qui se prépare ce soir ici? Ça sent le traquenard.
Non, pas un traquenard. La dernière soirée chasse de la saison.
Pourquoi, il y en a eu beaucoup?
Quelques-unes.
Et alors, qui sont les convives? Qu'est-ce qu'on trouve ici autour de la table ce soir?
On y trouve principalement des vignerons et après des gens qui aiment bien vivre et bien manger.
Ah bah ouais, ouais, ça c'est une bonne chose. Et alors, quel est le plat mythique que vous leur avez préparé à tous ces vignerons?
On leur a préparé un oreiller de la belle Aurore façon Brillat Savarin.
Le roi des pâtés en croûte.
Voilà, le roi.
Et alors, dans cet oreiller de la belle Aurore, qu'est-ce qu'on y trouve?
On y trouve principalement du gibier, à plumes, à poils. Donc on y trouve bécasse, perdreau, sarcelle, colvert. On y trouve faisan, on y trouve riz de veau, foie gras, sanglier, chevreuil, cerf, lapin de garenne.
Mais combien y a de bestioles là-dedans?
Il y a au moins 16 viandes dans le pâté.
16 viandes, ça c'est vraiment l'oreiller traditionnel?
C'est le pur classique.
Et alors, ça fait combien de kilos un oreiller de la belle Aurore?
Ce soir, il doit faire à peu près 25 kilos.
25 kilos, hein, dans un rectangle absolument magnifique qui ressemble donc à un oreiller. Hein. Et alors, vous avez posé les têtes de bécasse dessus?
Oui, en décoration, bien sûr, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que ça demande comme temps de préparation? Parce que je suppose que certaines de ces viandes sont marinées, d'autres pas.
Marinade entre 15 jours, 3 semaines. Montage 2 heures et cuisson 3 heures, 3 heures 30.
Dans un four à sec, un four chaud?
Oui, four chaud à sec, oui.
Ouais, d'accord. Et alors, ce pâté, cette oreille de la belle Aurore, qui est vraiment mythique, ça fait longtemps que vous le faites, vous?
À Beaune, ça fait 4 ans à peu près. Et on a toujours à peu près les mêmes vignerons qui viennent à cette soirée.
Alors l'idée, c'est de le manger chaud ou froid?
Froid, froid. L'oreiller de la belle Aurore, pour moi, se mange froid, se mange pas chaud.
Et vous l'accompagnez de quoi en général?
Une petite vinaigrette avec ma gelée que j'ai fait fondre. Une petite vinaigrette avec accompagnée de truffes et c'est tout.
Ah, quand même, il y a des truffes parce que c'est la fin de la saison de la truffe là aussi hein, qui s'annonce.
On est dans la fin de la saison de la truffe et dans l'oreiller de la belle Aurore, il y a beaucoup de truffes.
Christophe Kéan, dans cet oreiller de la belle Aurore, vous avez cité des gibiers comme la bécasse que les restaurateurs n'ont pas le droit d'acheter. Donc ça veut dire qu'on vous les a apportés parce que ça, on a le droit de les cuisiner sans les acheter.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. J'ai des amis chasseurs qui viennent gentiment m'offrir des bécasses, chose qui est très rare.
Ce soir, il y a que des vignerons pratiquement hein, autour de Beaune, que ce soit évidemment dans la côte de Beaune, hein, c'est-à-dire en dessous, ou alors dans les côtes de nuit, au-dessus, on est entouré de vignobles. Et il y a beaucoup de ces vignerons qui sont des chasseurs aussi?
Il y en a beaucoup, oui, oui, beaucoup, beaucoup.
Alors en fait, ils vous confient leur gibier pour que vous leur prépariez le mieux possible?
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Bertrand de Villene, si j'ai bien compris, les gens qui sont autour des tables ici ce soir, des vignerons, des chasseurs et des copains, quoi, grosso modo.
Surtout des copains.
Surtout des copains.
Surtout des copains.
Oui, mais c'est les copains qui amènent les bouteilles ou c'est les vignerons?
Ah bah c'est les copains et les vignerons, mais les copains aussi. Parce que tous les copains sont très proches des vignerons et sont grands amateurs aussi.
Alors, on peut avoir le sentiment que nulle part ailleurs qu'en Bourgogne, on peut trouver réunis sur les mêmes tables, d'abord, des gens aussi épicuriens, des gens qui aiment le vin et la cuisine. Cet oreiller de la Belle Aurore avec 16 gibiers, enfin 16 viandes et gibiers différents, et des quilles extraordinaires, quand je dis des quilles, des bouteilles, hein, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'en fait, chacun amène un petit peu ses coups de cœur, les trucs de derrière les fagots, du fond de la cave, des choses qui ne sont plus dans le commerce.
Oui, et puis surtout, il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire que personne ne veut emmener ce qu'il y aura de meilleur. Les gens emmènent en général, on partage les vins qu'on aime en général. Donc nous, on vient ici parce que finalement, c'est pour la cuisine de Christophe, c'est pour des copains qui se retrouvent, c'est presque devenu une habitude en fait. Et puis on vient donc pour la nourriture, pour l'excellence de l'exécution des plats qu'on mange ici, qui sont des plats excessivement traditionnels, l'oreiller de la Belle Aurore, le civet de lapin en deux façons, enfin des choses que tous les gens qui aiment un peu manger sérieusement connaissent. Et puis après les vins, non, il n'y a pas de compétition, il y a des vins de toutes les régions, il n'y a pas que des vins de Bourgogne, il y a des choses originales, des choses plus classiques. Puis voilà.
Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un peu d'âme bourguignonne ici dans cette salle ?
Bah je crois que vous êtes là, vous avez pris votre micro pour travailler un petit peu, mais ça fait un petit moment que vous vous encanaillez avec nous. Je pense que l'âme bourguignonne, oui, elle est relativement présente.
Bertrand Villani, un truc qui m'a un peu surpris, tout à l'heure, on a donc un oreiller de la Belle Aurore avec, je le répète, 16 viandes et notamment du gibier, beaucoup de gibier, sarcelles, colverts, perdreaux, faisans, bécasses, pigeons, etc. Et pourtant, on a bu des blancs bourguignons dessus. On a bu des chassagnes, on a bu des meursaults, on a bu des morachets. Pourquoi pas du rouge avec tous ces gibiers ?
Aujourd'hui, on a pris des habitudes de consommation de tel vin avec tel fromage, telle viande avec tel vin, telle couleur de vin. Je pense que ça, c'est quelque chose qui reste très très personnel, mais que sur l'oreiller de la Belle Aurore, un vin rouge de Bourgogne élégant et fin aurait très bien été également, simplement dans l'organisation du vin. Je pense qu'il y a une tradition. C'est vrai qu'en Bourgogne, on a souvent tendance à finir aussi les plats plutôt sur des vins blancs, avec les fromages par exemple, qui sont des choses relativement spécifiques chez nous, où on a toujours tendance à dire le vin rouge, le fromage. Après, les règles sont faites pour être appliquées, adaptées, appréciées.
Et je suis fier. Ils ont de quoi être fiers, ces Bourguignons. Ils sont fiers de leur région, de leur terre. Ils sont fiers de leur tradition, de leur cuisine et bien sûr de leur vin. Mais les Marocains aussi étaient fiers à Agadir, fiers d'être les nouveaux disciples d'Auguste Escoffier et de porter les valeurs de la belle cuisine, où qu'elle soit dans le monde. Nous aussi, on porte ces valeurs et on vous retrouve avec fierté dimanche prochain, ici même. Vous connaissez l'adresse, à 10h, c'est Place du Marché, sur Sud Radio. D'ici là, bonne semaine à tous.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.